Dieu n'a pas fait la mort. Comme le dit si justement le sage Ben Sirac dans notre première lecture, car, ajoute-t-il, c'est par l'envie ou la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. On ne peut être plus clair, frères et sœurs. Dieu est le Dieu de la vie, le Dieu des vivants. Il aime la vie, notre vie. Il ne nous a pas créés pour le néant, il ne nous a pas créés pour notre perte, il ne nous a pas créés pour la mort, il nous a créés pour que nous puissions participer à sa vie, et sa vie est éternelle. C'est pour cette vie que nous sommes tous créés. Si Dieu révèle à Moïse son plus beau nom, Exode 3,14, comme une sorte de pie chrétien, 3,14, je suis ce nom que reprendra Jésus lui-même à son propre compte, c'est parce que Dieu seul a la vie en lui-même, puisqu'il est éternel, qu'il ne peut donc pas mourir et qu'il donne à tout être de pouvoir être ce qu'il est. Oui, la première grâce que Dieu nous a faite, frères et sœurs, c'est nous-mêmes. Dieu nous a donné à nous-mêmes pour que nous puissions d'abord lui en rendre grâce. La vie est un cadeau qui appelle notre reconnaissance. Et la folie du péché de l'homme à l'instigation de celui du démon, l'auteur du mal et de la mort, l'homicide, comme l'appelle Jésus, le péché de l'ange comme de l'homme, c'est de ne pas reconnaître que notre existence relève d'un Dieu créateur sans lequel il nous serait absolument impossible d'exister, autrement dit, d'être ce que nous sommes. Par le péché originel, l'homme, tout comme l'ange déchu, bien entendu, se coupe de la source de son être, comme un fleuve se couperait de sa source. Dès lors, il perd la grâce filiale et il connaît la mort spirituelle, dont la mort physique est le triste symptôme. Car sans le péché, nous n'aurions pas connu la mort, du moins sous la forme qu'elle revêt maintenant, cette séparation douloureuse du corps et de l'âme. Charles Péguy, le grand poète français, l'a très bien compris lorsqu'il écrit « Ce qui depuis ce jour, le jour donc de la tragédie du péché originel, ce qui depuis ce jour est devenu la mort, n'était alors qu'un naturel et tranquille départ. » Oui, sans le péché, la mort n'aurait pas eu cette dimension tragique de séparation, mais elle n'aurait été qu'un doux et tranquille passage de cette vie à la béatitude divine. Mais Dieu ne se résout pas cependant à la perte des hommes, puisqu'il les a créés pour sa vie. Et c'est là la raison d'être du salut accompli en Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, chemin, vérité et vie, dont la mort et la résurrection nous ont ressuscités nous-mêmes pour une vie nouvelle. Comme le dit d'une manière sublime la quatrième prière eucharistique, en s'adressant au Père, « Comme l'homme avait perdu ton amitié en se détournant de toi, toi tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. » Au pouvoir de la mort, non pour accomplir le dessein de ton amour, tu nous as envoyé ton propre Fils qui s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection a détruit la mort et renouvelé la vie. Comme c'est beau. Voilà l'œuvre du Fils obéissant au dessein éternel de son Père. Voilà l'œuvre du Fils détruire notre mort et nous renouveler dans sa vie. Nous le voyons dans l'évangile de ce jour, Jésus y accomplit deux guérisons miraculeuses. Celle de la femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans et les médecins ont été absolument impuissants à la guérir. Et la résurrection de la fille de Jaïr, le chef de la synagogue. Ces deux guérisons ne sont pas anodines. Elles veulent attester que Jésus est le maître de la vie. Cette pauvre femme qui souffre de perte de sang depuis 12 ans. N'est-ce pas le symbole d'une humanité menacée par la mort et qui perd sa vie? Oui, le sang, c'est la vie pour les Hébreux. Ou cette fillette qui s'est endormie trop tôt, puisqu'elle n'a que 12 ans, nous révèle le texte. Et Jésus, parce qu'il est Dieu fait homme, a seul le pouvoir de sauver l'une et l'autre de l'absurdité de la mort pour laquelle aucun être humain n'a été fait. Dieu n'a pas fait la mort. Voilà le grand message, voilà la bonne nouvelle d'aujourd'hui, qui est la nouvelle même de l'Évangile, celle que les chrétiens ont la charge d'annoncer au monde. En ressuscitant, le Christ nous rend la vie divine et éternelle que la folie du péché d'Adam nous avait fait perdre. Dans la foi, non seulement nous voyons Jésus ressuscité, mais nous voyons notre propre résurrection. Si le Christ en effet n'est pas ressuscité, comme dit saint Paul aux Corinthiens, mais notre foi est vaine. Vaine est notre foi si le Christ n'est pas ressuscité. Si notre espérance dans le Christ se termine avec la vie présente, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, de toutes les créatures, même sous le soleil, pourrions-nous ajouter. Or, la foi est une victoire. Une victoire sur l'absurdité d'une vie sans immortalité. C'est pourtant là le credo de nombre de nos contemporains qui se sont mis à la remorque des maîtres du soupçon, de tous ces philosophes qui ont chanté la mort de Dieu, le néant de l'homme, l'absurdité d'un monde sans finalité. Alors, la responsabilité qui est la nôtre, formidable responsabilité à nous, croyants, devant ce déficit de la foi et de l'espérance, de plus en plus présent et tenace dans notre monde occidental, eh bien, notre mission, c'est de rendre compte de cette espérance qui est en nous. Nous devons être des témoins de l'espérance. Des prophètes du sens d'une vie qui n'a de sens que dans l'éternité de Dieu. Le tombeau est vide parce que le Christ est ressuscité. Et dès lors, notre vie ne l'est pas. Elle est toute pleine de la présence du Christ ressuscité qui nous rend à l'espérance d'avoir part nous-mêmes à la gloire de sa résurrection. « À lui qui est mort et ressuscité pour nous », dit encore la quatrième prière. « pour nous les hommes et pour notre salut. » C'est pour nous, c'est par amour pour nous que le Christ a tant souffert, qu'il a donné sa vie, versé son sang. C'est pour que nous ayons la vie et la vie en surabondance. Alors notre foi qui nous donne de voir Jésus ressuscité, doit être pour nous une formidable victoire sur toute forme de désespoir. Car la foi, pour parler comme l'Épître aux Hébreux, est la substance des biens que l'on espère, qu'on ne voit pas encore. Ces biens sont donc à venir, mais la foi qui nous habite, elle est bien réelle. Elle nous permet de vivre ici et maintenant en présence de celui qui est la résurrection et la vie. Regardez cette force aujourd'hui qui sort de Jésus. Mais c'est la rencontre justement de la foi qui sauve, qui permet à cette pauvre femme d'être guérie, mais surtout d'entrer en relation avec cet homme qui est Dieu. Dieu même, la présence même de Dieu, la Shekhida, la présence même du Seigneur qui est là. Alors nous pouvons dire comme la petite Thérèse que certes, pour voir Dieu, il faut mourir, mais pour être avec lui, disait Thérèse, j'y suis déjà tout à fait sur la terre. J'y suis déjà tout à fait sur la terre. Ah, puissions-nous dire ces mots, frères et sœurs, être véritablement en relation intime et profonde avec ce Dieu qui nous habite au-dedans de nous. L'espérance est fondée sur cette présence et sur la propre résurrection du Christ, mais encore aussi sur notre propre nature humaine. Oui, frères et sœurs, dans une saine anthropologie, ça il faut le dire, à l'heure de la réincarnation, évidemment. Alors il est de bon ton de croire en la réincarnation. Ah oui, ça au moins, ça. Ouh, hein, le bouddhisme zazen, mais bien sûr, plutôt que ce résurrection. Vous rendez compte, on n'a qu'une vie. Oh, c'est atroce. Mais oui, nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie. Et mais cette vie, elle est extraordinaire. Vous voyez, corps et âme, mais vraiment un. Oui, ça, c'est le Concile Vatican II hein, qui nous remet bien dans les rails. Hein, puissent les chrétiens, hein, un peu borderline, revenir un petit peu aussi à l'enseignement des conciles, essentiellement de l'Église. C'est là la sagesse philosophique et théologique. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, ce concile? Eh bien, que la personne humaine est corps et âme vraiment un. Parle d'unité substantielle, justement. Hein. Donc, la personne n'est pas vouée à l'origine au néant. Hein, dès sa conception, corps et âme, pour toujours, dans l'éternité, dans le dessein d'amour éternel du Dieu qui nous a créés, pour l'incorruptibilité, nous dit encore Ben Sirac. Cela veut dire que notre vie spirituelle ne consiste pas, non, en une évasion du temps, en une pâle rêverie, mais bien plutôt en une prise en compte très sérieuse que ce temps que nous vivons est lui-même suspendu à l'éternité divine. Et c'est cette éternité même qui donne tout son poids à notre propre vie, à notre temps. Nous sommes invités à ressusciter ici et maintenant par la foi et donc réellement à l'amour du Christ qui seul a les paroles de la vie éternelle parce qu'il est la vie. Nous sommes invités à mesurer notre temps à l'aune de l'éternité de Dieu. Nous sommes invités, ici et maintenant, à ressusciter pour une vie nouvelle, celle des enfants de Dieu, qui ne sera pas centrée sur notre petit ego, non, mais sur l'amour d'un Dieu qui a voulu s'abaisser par amour pour transformer en feu le petit néant que nous sommes. Notre foi devient alors une formidable victoire contre le découragement. Car le découragement, frères et sœurs, c'est la plus belle arme du diable. Et oui, le découragement et le désespoir. Nous sommes trop souvent portés à nous déprécier, voire à nous mépriser. Nous voyons en nous ce qui ne va pas. Mais au lieu de voir ce cadeau qu'est la vie, avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille, ne nous regardons pas trop nous-mêmes, peut-être parce que nous nous regardons trop nous-mêmes. Mais fixons nos regards sur le soleil levant, le Christ, qui veut transformer en or pur les poussières que nous sommes. Demandons-lui, au Seigneur qui est ressuscité, la grâce, plutôt, d'une audacieuse espérance pour nous-mêmes, pour le monde entier. Oui, le monde se perd faute d'espérance. Bernanos disait « Il se meurt faute d'enfance ». Mais c'est la même chose. Parce que nous nous mourrons faute d'enfance, nous nous mourrons parce que nous manquons d'espérance. Parce que l'enfant, lui, il espère, toujours, puisqu'il vit au présent. Alors levons-nous, frères et sœurs, levons-nous. C'est le terme même de la résurrection qu'emploie Jésus pour ressusciter la fille de Jaïr. Ressuscitons avec lui, Jésus ressuscité, le mal et la mort sont définitivement vaincus, vaincus par sa sainte passion et sa sainte résurrection. Et c'est la lumière de la résurrection qui nous donne l'espérance, une lumière qui est un jour sans nuit, un jour sans fin, partout avec le Christ ressuscité d'entre les morts, partout. Cette nuit resplendit partout, elle rayonne partout, elle demeure pour l'éternité.